Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour, Igor et Grishka Bogdanov, figures emblématiques de la vulgarisation scientifique, viennent de nous quitter. On n'a jamais su réellement à quel espace-temps appartenaient les deux frères. Mais leur vie fut encore plus romanesque que l'est leur légende. C'est donc leur vie que je vous propose de découvrir, contée par Igor et Grishka qui, aujourd'hui, sont devenus des symboles dans la lutte pour la vaccination.
Europe 1. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
C'est un voyage dans le temps et l'espace que nous allons faire cet après-midi avec deux invités hors normes. Ils intriguent, ils fascinent et parfois ils divisent la communauté scientifique. Pourtant, l'un est docteur en mathématiques, l'autre docteur en physique théorique. Ils ont été tour à tour stars de la télé avec Temps X, le premier magazine consacré à la science-fiction, puis auteurs de best-sellers s'interrogeant sur le cosmos et les lois de l'univers. Mais bien sûr, il s'agit de Igor et Grishka Bogdanov. Bonjour.
Bonjour.
Bon alors, on est dans un studio à Europe 1, mais il n'est pas interdit, bien évidemment, que vous nous embarquiez pour un voyage spatio-temporel. Hein.
Bien entendu. D'ailleurs, c'est la règle pour nous. On ne fait jamais de déplacement à l'antenne sans que ça se traduise par une entrée dans l'espace.
Alors,
dans
on accroche nos ceintures. Et on décolle. Igor et Grishka, est-ce qu'il est vrai que dans le château familial du Gers, où votre grand-mère maternelle l'avait invité, André Malraux déclara un jour aux adolescents que vous étiez « Intéressez-vous à l'avenir, jeune homme ?» Parce que, en fait, il n'y a de réponse de civilisation que dans le futur.
Oui, c'est vrai d'ailleurs. Pour moi, qui ai rencontré André Malraux en premier, juste quelques semaines avant Igor, j'avais 12 ans, et ce personnage qui était vraiment impressionnant dans la stature était une légende vivante, nous a été présenté par Louise Villemorin, qui était une grande poétesse, oui. Un écrivain merveilleux et qui elle aussi nous faisait rêver. Et elle nous a dit un jour, eh bien, je vais vous présenter un grand personnage, je vous fais une surprise. Et la surprise, c'était André Malraux. Et il a dit ceci, c'est vrai qu'il n'y a de réponse de civilisation que dans l'avenir.
Ben, ce qui est quand même curieux, c'est que vous avez été élevés, tous les deux, Igor et Grishka, comme de jeunes aristocrates du XVIIIe siècle, dans un château reculé, avec tous les codes du siècle des Lumières, et en même temps, c'est votre passion pour la science-fiction qui vous a rendu célèbre. Mm-hmm. On peut dire que votre éducation vous a pas franchement préparé à ça, à cette passion ?
Si, parce qu'en fait, notre lieu de naissance, qui était donc ce château médiéval que notre grand-mère a acheté en 1927 quand elle est arrivée d'Europe centrale, nous a été, je crois propice à l'épanouissement du rêve et de l'imaginaire, et en particulier donc l'appétit de l'avenir. Curieusement, cet appétit nous est venu à l'âge de 4 ans, lorsque nous nous sommes promenés pour la première fois sur les remparts de cette très très vieille bâtisse, et que nous avons découvert concrètement, à travers les pierres écroulées, le sentiment du temps écoulé. Et que nous nous sommes demandé, mais comment est-ce que c'était il y a 1000 ans, cet endroit-là, cette muraille qui est à demi écroulée? Et tout de suite après,
oui, Grishka s'est tourné vers moi. Il y a 1000 ans, car il faut bien situer le fait que cette forteresse date de 980. 980, vous imaginez? Alors que nous étions dans les années, justement, 1960-70, 980. Donc, on savait que c'était 1000 ans en arrière.
Voilà. Et la question qu'on s'est posée tout de suite après, c'est, mais comment est-ce que ce sera dans 1000 ans? Quel sera l'avenir de cette muraille? Quel sera l'avenir de cette bâtisse? Est-ce qu'elle sera toujours là dans 1000 ans? Et c'est à partir de cette question-là que je crois notre goût pour la science-fiction, pour l'avenir, pour le voyage vers le futur, c'est définitivement enraciné en nous.
Pour accéder à l'avenir, il faut avoir la mémoire longue. Voilà une très belle citation dans Le Gai Savoir. Eh bien, c'est vrai que nous l'avons ressenti dans nos esprits, dans nos chairs même, puisque nous savons que nous avons foulé les pas de ceux qui nous ont précédés 1000 ans auparavant, et donc pourquoi pas 1000 ans dans l'avenir.
Alors ce décalage en tout, qui est assez fascinant quand même dans une époque aussi lisse et puis formatée que la nôtre, donc, ce décalage dans l'être et puis dans le paraître, finalement c'est une singularité que vous avez choisi de travailler ensemble très tôt ou pas? Attention, je vous parle de posture. Non, tout ça est parfaitement spontané.
Ah ben, complètement, c'est-à-dire que Grishka et moi, nous avons commencé à travailler ensemble quand nous avons pris conscience que nous étions deux à occuper le même espace. Et on a travaillé ensemble pour, par exemple, ramasser l'ours qui était tombé au fond du lit, que nous occupions en commun, et voilà.
Mais vous avez toujours fait ensemble.
Toujours, toujours, absolument.
Les mêmes curiosités, les mêmes envies, les mêmes aspirations, les mêmes ambitions.
Oui, c'est vrai, et même lorsque nous étions séparés, parce qu'il nous est arrivé d'être séparés pendant des périodes assez longues, lorsque j'avais, par exemple, 9 ans, 10 ans, 11 ans, Igor était de son côté, moi du mien, séparés par plus de 100 km. mais on continuait d'être ensemble. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, c'est que le lien n'a jamais été rompu. Et tous les jours, nous n'avions pas besoin de nous parler, parce qu'on ne se parlait pas, mais tous les jours, on savait qu'on partageait les mêmes pensées.
Alors, Igor et Grishka, dans la saga familiale, côté paternel comme côté maternel, il y a des personnages aussi fantasques que hors normes. Votre père était le prince Ostasenko Bogdanov, d'origine russe et tatare, et votre mère, comtesse d'origine tchèque, était la fille naturelle d'un chanteur d'opéra noir américain. Oui. C'est incroyablement romanesque.
Ah, mais c'est incroyablement romanesque. Enfin, c'est Docteur Jivago, c'est tout ça. C'est vrai, parce que notre grand-mère, d'abord, qui est à l'origine donc, de cette saga, est un personnage extraordinairement romanesque. C'était une femme d'une beauté sans égale à son époque. Elle était réputée comme étant peut-être une des plus belles femmes de la cour d'Autriche. Elle était mariée à un prince autrichien. Et elle s'occupait des événements culturels à Schönbrunn, donc pour l'empereur, dont elle était proche, puisque toutes ses familles étaient liées dans cette Europe centrale des années 1910-1915. Et donc, un jour, elle décide, comme elle avait une imagination un peu hors du commun, elle était très singulière comme personnage aussi, et c'était pour cela, à cause de son inventivité, qu'elle avait été nommée un petit peu responsable de tous les événements de la culture à Schönbrunn. Et donc, elle a l'idée d'inviter pour la première fois un chanteur noir américain à Schönbrunn. Et lorsque le rideau s'ouvre, toute la cour, toute l'Autriche est là. Et lorsque le rideau se lève, la cour est stupéfaite parce qu'elle voit pour la première fois un noir. La plupart des invités qui étaient installés sur leur siège face au théâtre donc privé de Schönbrunn n'avaient jamais vu un noir. Ils en avaient entendu parler, mais ils n'en avaient jamais vu. Et là, pour la première fois, il était là. Et en plus, sur scène, pour interpréter de la musique classique, enfin un air d'opéra. C'est un soprano merveilleux, et donc quand il chante pendant une heure, c'est un éblouissement pour l'oreille. Et à la fin, la cour ne sait pas quoi faire. Faut-il l'applaudir ? Faut-il applaudir un chanteur noir, même s'il est merveilleux ? Et quand notre grand-mère
ne me dit pas
se
qu'il
rend
y a eu
compte,
cette hésitation.
Non, mais la salle est totalement stupéfaite et presque figée. Et lorsque ma grand-mère se rend compte que personne ne bouge, elle se lève, elle est assise à trois rangs de l'empereur, et là, elle applaudit. Et évidemment, elle libère la salle, le prince Schwarzenberg, le prince Fürstenberg, enfin, tous se
et
lèvent.
Et toute la cour applaudit. Bah,
la salle explose, parce que cet artiste est inouï. Et c'est de là que va naître donc une histoire très particulière entre ma grand-mère et ce personnage. Ils n'ont jamais vécu ensemble, mais elle a décidé de créer, comme elle le disait, un nouvel avenir, de donner une nouvelle chance à cette vieille aristocratie qui, selon elle, était condamnée à dépérir et, en tout cas, à ne plus nourrir l'histoire. Et donc, elle se dit un jour, il y aura un noir qui sera président. Elle l'avait vu dans l'avenir. Elle l'avait vu dans l'avenir. Et donc, ce noir, c'était notre grand-père.
Mais alors, pourquoi cette femme donc étonnante, comtesse tchèque? Pourquoi votre grand-mère vous a-t-elle élevé ? C'est elle qui vous a élevé, pas votre maman.
En fait, c'est plutôt bicéphale, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois un rôle très important du côté de notre grand-mère, bien sûr, qui était plutôt un rôle culturel, et puis un rôle affectif plus marqué du côté de notre mère. Alors, il faut dire aussi que maman a beaucoup voyagé, elle aussi a partagé cette espèce de goût pour la créativité, pour ce que l'on appelle l'hospitalité, des voyages, des rencontres. Elle était beaucoup à Paris, beaucoup dans d'autres pays. Donc, du coup, un petit peu moins en Gascogne, alors que notre grand-mère était véritablement, on va dire, la princesse du lieu.
Il paraît que jusqu'à l'âge de 9 ans, finalement, la littérature, les mathématiques, l'histoire, les sciences et la géographie, eh bien, tout ça, vous ne l'avez étudié qu'avec des précepteurs donc, qui venaient enseigner au château. Vous n'étiez pas scolarisé ?
Non, en fait, on a été scolarisé relativement tard, c'est-à-dire en fait à l'entrée en sixième. Nous avions en particulier deux institutrices qui étaient là à la maison. L'une s'appelait Mademoiselle Desgranges, l'autre s'appelait Mademoiselle Boucherolles. Ce sont toutes des demoiselles, hein, comme vous voyez, mais des demoiselles qui, de notre point de vue, étaient très vieilles. Enfin, elles avaient peut-être 60 ans, 70 ans, je ne sais pas.
Non, 100 ans.
Ou 100 ans. On avait le sentiment qu'elles étaient vraiment très très âgées, ces deux personnes qui étaient là et qui, en effet, nous donnaient leur savoir. Et c'est grâce à elles que je pense que nous avons acquis peut-être un peu d'avance. Lorsque nous sommes entrés en sixième, on avait quoi ? On avait 8 ans et demi et 9 ans. Et donc, on était un petit peu en avance.
C'est comme ça qu'on est bachelier à 14 ans, Igor Grishka, n'est-ce pas ?
Il y a eu beaucoup de discontinuité quand même dans le parcours secondaire, parce que on a passé des étapes où nous étions vraiment, je dirais, délivrés de l'obligation de présence parce que nous l'avions choisi. C'est-à-dire que, par exemple, Igor a eu un parcours d'auditeur libre, moi j'ai sauté des classes. Enfin bon, c'était assez particulier, et ça nous a amené, en effet, à traverser à la fois la géographie du savoir à notre manière,
ouais,
en réinventant un peu les parcours, et puis aussi la géographie des langues. Vous parliez effectivement des langues, quoique, je dois dire que nous sommes très complexés par rapport à notre grand-mère, qu'on appelle Istène.
Qui, elle, en parlait au moins une dizaine ?
Ah, 12. 12 langues, mais parfaitement, couramment, elle les écrivait, etc. Elle nous a donné une démonstration de ce que pouvait être la polysémie d'Europe centrale de cette époque.
On s'interrompt un court instant, et on poursuit ensuite le voyage avec mes invités cet après-midi, Igor et Grishka Bogdanov.
13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Ils comptabilisent 380 coefficients intellectuels à eux deux. C'est dire si on ne s'ennuie jamais avec eux. Grishka et Igor Bogdanov. On vient de vous quitter dans l'étonnant château du Gers où vous avez grandi, sans aller à l'école, puisque c'était des préceptrices qui se chargeaient de vous enseigner les mathématiques, l'histoire et les sciences. Mais il faut absolument que vous nous entraîniez dans la pièce du château que, j'imagine, vous avez sans doute préférée. Il s'agit de la bibliothèque, une bibliothèque riche de 15 000 ouvrages, dans laquelle, à 7 ou 8 ans, vous rêviez déjà devant des livres comme l'Histoire du ciel, avec des planches à l'aquarelle de toutes les constellations. Elle ressemblait à quoi, cette bibliothèque ?
Elle était étonnante parce que c'était une pièce immense. On l'appelait d'ailleurs la grande salle et non pas la bibliothèque, qui était tapissée de livres sur ses quatre faces. C'était extraordinaire. Au centre, il y avait un vieux billard, et je me souviens que on disposait les livres comme ça sur le billard, qui était quand même très très grand, et donc ça nous permettait de mettre 10, 20, 30, 100 livres les uns à côté des autres comme ça sur le billard, et puis de passer d'un livre à un autre. Et en particulier, donc, vous parlez des planches de Flammarion que nous pouvions étaler et que nous pouvions admirer sur une très grande échelle. C'était un lieu magique.
Est-ce que votre grand-mère, qui vous élevait, encourageait cette passion pour l'astronomie ?
Ah oui, bien sûr. D'autant plus que les livres qui touchaient à l'astronomie se trouvaient tout à fait en haut. C'était déjà à presque 7 mètres de haut. Donc il fallait escalader 7 mètres. 7 mètres pour un enfant de 5-6 ans, il faut déjà les franchir. Il faut effectivement se donner le courage de monter jusqu'en haut, puis de regarder en bas. Le billard était devenu tout petit, etc. Mais on savait que les livres d'astronomie, le ciel notamment de Flammarion, étaient là-haut. Et bien sûr, notre grand-mère était la première à nous dire « Allez-y, ouvrez les livres, plongez-vous dans ce savoir-là, et puis n'en sortez que encore grandi, encore agrandi. »
Qu'est-ce que votre grand-mère, comtesse, tchèque, fantasque, romanesque, encourageait d'autre en vous ?
D'abord, elle a encouragé justement ce passage d'une langue à une autre. Elle nous a parlé en allemand, elle, oui, nous a parlé en anglais, elle nous a parlé en tchèque. Elle nous a parlé donc toutes les langues qu'elle maîtrisait parfaitement, de manière à ce que nous puissions nous-mêmes parler ces langues-là, et peut-être aussi passer entre les langues comme ça, c'est-à-dire en fait se promener d'une langue à une autre. Ça, c'était un cadeau extraordinaire. Et puis, elle nous a ouvert aussi à la pluralité des cultures. Donc, elle nous a, je pense, éduqué à une vision plurielle du monde.
Et alors, la notion de liberté, la liberté qui fait qu'on ne craint pas de paraître aux autres parfois excentrique, elle vous l'a aussi délivré, cette notion de liberté ?
Oui. Mais, oui, complètement. Complètement, parce que notre grand-mère était quelqu'un de profondément libre, justement. Elle réinventait les règles d'une vie qu'elle avait littéralement organisé dans ce château qui était une forteresse complètement fantasque, où on trouvait des Polonais, des Russes, des Américains, des Allemands. Enfin, il y avait une espèce comme ça de tour de Babel qui était à notre portée. On traversait concrètement ces univers à travers tous ces agents qui venaient du monde entier. Et donc, cette liberté, au fond, de réinventer le monde, je pense que c'est à elle qu'on le doit.
Alors, quand vous étiez enfant, dans les années 50, Grishka et Igor, on s'attachait beaucoup moins qu'aujourd'hui à la notion de précocité et puis aux quotients intellectuels. Votre famille, vous regardez évoluer comme des enfants surdoués, ou bien tout cela lui paraissait parfaitement naturel ?
Parfaitement naturel.
Oui, parfaitement naturel, et en même temps...
Parce que vous avez des frères et sœurs, est-ce qu'ils manifestaient les mêmes capacités ?
Il y avait 10 ans d'écart entre nous et eux, ce qui fait que... Finalement, je crois que cette différence d'âge a fait que, bon, on ne les a pas vus grandir de la même manière, et on ne s'est pas vus grandir non plus,
il faut dire. C'est aussi un autre phénomène qui est l'autarcie gemellaire. Parce que le fait d'appartenir à un couple gemellaire, donc d'être deux, tout en étant quelque part un, a façonné une sorte de... Oui, on dit de singularité à deux, qui est assez forte, et qui a fait que, par exemple, vous parliez des tests tout à l'heure, mais notre grand-mère nous a éduqués de manière assez ludique à la capacité à entrer en relation avec ces tests qui pour elle étaient pas seulement des tests d'intelligence, mais des tests de développement, des tests de jeu, tout simplement, de jeu du monde. Et c'est comme ça que nous en avons fait beaucoup à une certaine période. Et c'est pour ça qu'on atteint ces scores. Mais comme le dit l'un des fondateurs des tests, Binet, il dit, mais les tests d'intelligence ne mesurent jamais l'intelligence. Ils mesurent uniquement la capacité à résoudre les tests. Donc, c'est tout. Donc, c'est pour ça qu'on n'en tire aucune fierté.
Allez, on continue de dérouler le fil, Igor et Grishka. Vous avez 9 ans lorsqu'on vous annonce que désormais vous irez à l'école, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit d'une pension installée dans une abbaye accrochée à l'un des contreforts de la Montagne Noire, dans le Tarn. Pas d'eau chaude, pas d'électricité et 250 cellules de moines en guise de dortoir. Mmh. Qu'est-ce que vous aviez fait pour mériter ça ?
Mais on était absolument enchantés d'y aller, en fait, parce que pour nous, c'était un lieu d'abord de camaraderie, puisqu'on découvrait des camarades d'école qui avaient le même âge que nous et les mêmes passions et les mêmes objectifs. Donc ça, c'était une première chose. Et puis ensuite, on a découvert un lieu qui était celui de la double rencontre entre un ordre ancien qui venait de la religion, puisque c'était un collège qui avait été fondé par des dominicains. Et puis, deuxième influence très profonde aussi, un ordre militaire. Donc nous étions en uniforme, nous faisions le salut au drapeau, on nous entraînait à tirer au fusil sur une cible, mais en même temps, on allait tous les matins à 5 heures à la messe. Et tout ça, finalement, c'est un étrange mélange. Mais c'est un mélange qui est très profondément structurant pour l'imaginaire d'un jeune enfant.
Oui, et c'est pas seulement l'imaginaire au sens des capacités intellectuelles ou conceptuelles, c'est la silhouette morale qui est définie à ce moment-là. Et d'ailleurs, nous en retenons une maxime qui est la nôtre aujourd'hui, qui fait partie au fond de notre façon de voir les choses et d'agir ou de réagir. Eh bien, c'est l'un des pères fondateurs de l'école, le père Lacordaire, qui nous a appris cette maxime. Je cite la maxime. « Je ne cherche pas à convaincre d'erreur mon adversaire, mais à me rapprocher de lui dans une vérité plus haute. » Voilà, ça nous a toujours inspirés. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas dans la dialectique oppositive. Enfin, on ne s'oppose pas aux gens. On essaye simplement de comprendre pourquoi ils peuvent avoir des interrogations, pourquoi ils peuvent être quelque part distancés par ce que nous pouvons dire ou faire. Et puis, on essaie de se rapprocher d'eux.
Ça nous éclaire alors sur les positions que vous prenez dans les polémiques dont on parlera tout à l'heure.
Absolument.
Et qui sont engendrées par le monde scientifique, la communauté scientifique, qui parfois est divisée par vos travaux, vos recherches, vos ouvrages.
Absolument.
Donc, vous vous êtes donné des rôles de vulgarisateur scientifique, mais parfaitement altruiste.
Oui, et totalement dans la démocratie. C'est-à-dire, la démocratie, ce n'est pas simplement le partage du pouvoir, c'est aussi le partage du savoir. Pour nous, en tout cas, c'est ça. Et puis, au-delà de ça, c'est une compréhension des motivations de l'autre. C'est-à-dire que les scientifiques dont on parle, qui peuvent avoir une difficulté à comprendre ce qu'on fait, eh bien, nous voulons sincèrement aller à leur secours et leur dire, bon, si vous ne comprenez pas quelque chose, on va vous expliquer. On va vous dire pourquoi, ici ou là, des choses qui sont évidemment à partager sont encore distantes l'une de l'autre, mais on peut les rapprocher.
Alors, je reviens à votre enfance, Grishka, Igor. Est-ce qu'il est vrai que donc, dans cette abbaye accrochée à la Montagne Noire, la nuit, vous parveniez à fuir le dortoir pour aller regarder les étoiles ?
Nous, curieusement, nous avions une cellule qui était ouverte. Donc on pouvait, malgré le fait que le couvre-feu était déjà tombé sur le dortoir, eh bien nous pouvions quitter le dortoir alors que nous voulions, et sur la pointe des pieds, c'est vrai, on allait explorer le monde extérieur et regarder par une lunette qui était dans la cour d'honneur de ce collège. On pouvait observer les astres. Je me souviens de... Par exemple, les nuits de pleine lune, on observait pendant des heures entières les cratères à la surface de la lune. C'est vrai qu'on faisait de l'astronomie comme ça à Sorèze.
Une lunette dans la cour d'honneur de l'abbaye, ça ressemble à de la prédestination, ça.
Mais c'est vrai que c'est aussi ce qui nous a permis de découvrir, mais concrètement, ce qu'est le ciel. Et ça nous a permis, dans ce rôle d'astronome amateur qu'on s'est inventé à l'âge de 9-10 ans, ça nous a permis déjà d'aller assez vite et assez loin dans la conquête du ciel.
On s'interrompt un bref instant, vous êtes sur Europe 1, vous y êtes bien, vous voyez comme on voyage. Et d'ailleurs, on voyage en compagnie de Grishka et Igor Bogdanov, qu'on retrouve tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. 13h, 14h, Isabelle Morizet.
Ils sont jumeaux, passionnants et passionnés, ils intriguent, ils fascinent. Certains trouvent qu'ils sentent le soufre. Ce sont Igor et Grishka Bogdanov avec qui on voyage cet après-midi. Alors, Grishka et Igor, encore un mystère à élucider. Entre 1964 et 1974, date à laquelle on retrouve Grischka à Sciences Po, eh bien, vous disparaissez complètement des écrans radars. Il n'y a aucune trace de vous, mais franchement, nulle part, dans aucune biographie. Donc, de l'âge de 14 ans, où vous décrochez le bac, tous les deux, jusqu'à l'âge de 24 ans, mais que faites-vous de votre vie ?
Ben, c'est-à-dire que c'est une époque en effet mystérieuse. C'est vrai qu'il n'y a pas de traces. Il n'y a rien.
Mais tout simplement parce que...
Vous les avez effacées?
Pas du tout, non. Tout simplement, on n'était pas là. On n'était plus sur Terre à cette époque-là.
D'accord.
Oui, après le bac, on a décidé de prendre un petit peu de vacances et donc on est parti.
On est reparti, enfin.
dans notre pays d'origine. Sur notre planète à nous.
Bon, alors comme il existe des univers parallèles, c'est la théorie qui est développée d'ailleurs dans votre dernier livre, La pensée de Dieu. On va choisir un de ces univers qui, lui, apparaît vraiment sur Terre. Alors sur la planète Terre, entre 64 et 74, vous étiez où?
Non, mais ça, vraiment, c'est très difficile. On ne peut pas le dire. C'est...
Bon, alors, on oublie cette période 64-74 qui restera un mystère absolu. Et on part pour l'année 76. Et alors là, attention, Igor Grischka, vous êtes sur la rampe de lancement. Vous faites paraître un livre intitulé « Clés pour la science-fiction ». Et Grischka prend son téléphone pour convaincre Yves Mourouzi, donc la star du journal de 13 heures de l'époque, de vous inviter tous les deux sur le plateau. Et le jour de l'émission, eh bien, vous faites un tel numéro devant Mourouzi, qui est complètement halluciné, charmé, séduit, que le standard de TF1 lui aussi manque de sauter, et on peut dire que votre carrière est lancée.
Oui, ça a été très bref, c'est vrai. Et c'est grâce à non seulement Yves Mourouzi, mais aussi son adjoint fidèle, avec lequel on est toujours en lien d'ailleurs, qui s'appelle Michel Riosec, que nous avons franchi l'écran. Et que c'est vrai que ce franchissement a été d'un certain impact. Par la suite d'ailleurs, ça a tout de suite donné à Yves l'idée de nous proposer de faire une série. Une série qui n'était pas sur le journal de 13h, mais qui était diffusée, ou allait être diffusée le dimanche, donc à midi et demi. Et c'est ce que nous avons fait, et à partir de là, s'est constitué une sorte de banque d'images dont nous avons utilisé évidemment toutes les ressources pour ensuite les injecter dans Temps X.
Alors, quand vous avez créé Temps X, donc le premier magazine populaire de télé consacré à la science-fiction, franchement, vous avez frappé fort en vous mettant vous-même en scène dans un vaisseau spatial avec des combinaisons futuristes et puis des trucages qui font aujourd'hui le délice des nostalgiques des années 80. Mais vous, pendant 10 ans, qu'est-ce que vous avez vécu grâce à cette émission de plus inattendu, de plus drôle, de plus surréaliste ? Parce qu'elle a quand même été diffusée sur TF1 de 79 à 89.
Ce sont finalement les rencontres absolument extraordinaires avec des personnages aujourd'hui qui sont devenus des mythes. Par exemple, le jeune Steve Jobs que nous avons rencontré, il était encore dans son garage à cette époque-là. Il venait à peine de mettre au point son fameux Apple II. Nous l'avons rencontré,
il nous a montré une sorte de maquette. C'était quand même en 79, hein, c'était donc très très loin dans le temps. Il nous a montré une maquette qui représentait selon lui ce qu'il appelait un pocket big brain, c'est-à-dire en fait un petit minuscule ordinateur. Et en fait, il dit, avec ça, on va pouvoir téléphoner, on va pouvoir regarder la télévision, on va pouvoir écouter la radio et bien d'autres choses encore, et transmettre des messages. En fait, il avait déjà dans la main, en 79, ce qui allait devenir beaucoup plus tard, 30 ans plus tard, l'iPhone.
Mais ça veut dire que Temps X faisait du reportage d'investigation.
Ah oui, on allait tout à fait, assez absolument. Loin dans l'analyse, essayer de chercher, évidemment, comprendre les faits porteurs d'avenir.
Les faits porteurs d'avenir, exactement. Il fallait les isoler, les identifier, et ensuite les amener à être compris par le public.
Les autres personnages qui sont devenus emblématique de notre époque,
par exemple,
contemporaine. Vous l'avez rencontré en tournant Temps X.
Non seulement on l'a rencontré, on a passé une semaine avec toute l'équipe de La Guerre des Étoiles à Pinewood, là-bas, à Londres.
En 79, toujours.
En 79.
Non, c'était fin 79, début 80.
Début 80,
en fait,
oui.
Entre les deux.
Alors là, il y avait Harrison Ford, il y avait
Mark Hamill, Carrie Fisher, oui. Et puis Kirchner aussi. Il y avait une Kirchner,
moi, je me souviens d'un bras de fer avec Harrison Ford.
Qui a gagné.
C'est moi qui ai gagné, parce qu'en fait, j'étais mieux entraîné que lui à l'époque.
Et c'est une légende qui s'écroule si Harrison Ford perd le bras de fer.
Harrison Ford a perdu. Alors, excusez-moi.
Il me l'a dit, oh, you are pretty strong.
Et en fait, c'est à ce moment-là, donc pendant ces 10 jours assez bénis que nous avons effectivement traversés ensemble avec toute l'équipe, que George Lucas, à la fin, nous dit, you are so extraterrestrial. You should be part of my next film.
Elle a demandé là. On a demandé l'autorisation à Jacques Mousseau, qui était à ce moment-là le patron de la jeunesse et des après-midi. On lui a
sur
dit, voilà,
TF1.
On a sur TF1, on a la proposition donc, de Georges Lucas pour son...
Pour jouer dans le prochain volet de la guerre
voilà.
des étoiles.
La guerre
ne
des
me
étoiles.
Dites pas que TF1 a refusé.
TF1 a dit, écoutez, non, ce n'est pas possible, vous avez un contrat, vous ne pouvez pas.
Voilà. Vous ne pouvez pas.
C'est arrêté comme ça.
Vous
malheureusement,
savez qu'il existe
c'est pas
d'excellents
la seule
avocats,
fois,
quand même.
On nous a également, d'ailleurs, sur une autre proposition qui a échoué exactement de la même manière, c'était pour jouer dans Octopussy, qui était donc
Avec Roger Moore.
Donc
exactement, et Maud Adams, on devait jouer, on a été à Pinewood, en hélicoptère, je me souviens, on a fait un bout d'essai là-bas, qui a duré à peu près 3 ou 4 jours. À la fin, donc, John Glenn, qui était donc le réalisateur, nous dit...
De tous les James
you
Bond.
Guys, you are fantastic. You absolutely are in. Bon, donc, on était dans le film. On revient à TF1, on dit, voilà, on doit partir pendant 4 mois, etc. Ah ben non, écoutez, c'est pas possible.
Non, c'est pas possible.
Ah, vous êtes en contrat, et vous ne pouvez pas. Voilà, la chose est arrêtée.
Igor Egrichka, le triomphe de l'émission Temps X a scellé à jamais votre destin commun. Il vous a cimenté en quelque sorte l'un à l'autre. On ne vous voit jamais séparément. Est-ce qu'il est vrai qu'un jour, Coluche d'ailleurs vous a dit, au fait, lequel de vous deux est les frères Bogdanov?
Ah oui, c'est absolument vrai. Oui. Nous
c'était
étions chez
Jacques Attali.
Ouais, exactement. Mmh. Et il s'est planté comme ça. Et avec cette espèce de sens de l'invention extraordinaire, il a dit, mais j'arrive pas à reconnaître lequel de vous deux est les frères Bogdanov.
Mais vous avez déjà eu la tentation professionnellement de faire des choses séparément?
Non, en fait, professionnellement, non, parce qu'on se... D'abord, il faut dire qu'on n'est pas réellement au travail quand on fait une émission de télévision ou quand on écrit un livre. On invente, on crée ensemble. C'est-à-dire, en fait, on enchante une réalité qui n'existe pas, on la tire du néant, on lui permet d'exister. Et cet enchantement, ce tour de magie, finalement, qui consiste à créer quelque chose, ce n'est pas réellement du travail au sens strict. Bien sûr que c'est du travail, mais c'est pas seulement ça. C'est aussi une joie unitive, comme dirait Roland Barthes, de faire des choses ensemble. Et Grishka et moi, c'est vrai qu'on s'amuse avant tout. Et si on ne s'amuse pas, c'est que la chose ne sera pas bien.
Alors, je pose la question qui fâche. Lequel de vous deux est le chef?
Non, il n'y a pas de chef.
Ah, allez, ne me faites pas croire que chez les Bogdanov, c'est la démocratie absolue.
Non, il y a des chefs,
tout dans
y a
le
des chefs provisoires. Non, il y a des chefs provisoires. Nous savons très très bien, comment dire, que l'un peut occuper la place de l'autre. Et nous savons aussi abandonner le rôle du chef lorsque l'autre est plus compétent, tout simplement, voilà. Pour occuper cette fonction.
C'est des intermittents au fond de la compétence.
Oui, nous sommes des chefs provisoires.
On retrouve Igor Egrichka à Bogdanov dans quelques instants.
13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
C'est en compagnie d'Igor Egrichka Bogdanov que nous voyageons cet après-midi dans « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie ». Igor Egrichka, avec vous, les décennies se suivent et ne se ressemblent pas. Les années 80 étaient celles du triomphe du magazine Temps X consacré à la science-fiction et les années 90 vont être celles d'une éclipse télévisuelle absolument totale. Éclipse pendant laquelle vous allez travailler à l'Université de Bourgogne sur vos soutenances de thèse. Alors, résultat des courses, en 99, Grishka décroche donc un doctorat en mathématiques et en 2002, Igor décroche un doctorat de physique théorique. C'était un petit peu plus complexe pour Igor?
Non, mais en fait, c'était surtout le résultat, si on peut dire, les 3 ans de plus ont été le résultat d'une série de choses un petit peu compliquées, puisque j'étais marié à cette époque-là, que, en fait, ma première femme avait épousé une, entre guillemets, star de télévision, et puis elle s'est retrouvée aux côtés d'un étudiant. Et ça, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles elle a décidé, au fond, de reprendre une vie différente, hein, et de ne pas rester avec un étudiant qui était lui-même confronté à toutes sortes de difficultés, parce que c'est vrai qu'après 10 ans de thèse, on était harassé par des problèmes d'argent, tout simplement, les huissiers étaient là, aux portes de la maison, enfin, tout était devenu très difficile. Et ce contexte-là a fait que, c'est vrai, ça a ralenti un petit peu le champ, si on peut dire, le champ du travail, quoi. L'horizon du travail était un petit peu plus obscur.
Les neurones n'étaient pas en paix, on va dire.
Non, c'était ces années de thèse ont été difficiles pour nous. C'était pas quelque chose de simple, parce que c'est vrai que très souvent, on compare cette période à une mission effectuée, par exemple, lorsqu'on se décide de traverser l'Atlantique à bord d'un avion. On sait que l'avion a suffisamment de carburant pour arriver, mais bon, on ne sait pas quel vent contraire on va rencontrer. Grishka et moi, on a rencontré des vents contraires.
Et justement,
et c'est
on
vrai
va en
parler. Que, on n'était pas encore au bout de notre voyage lorsque on a vu que les jauges commençaient à... Grishka m'a fait du pied, là.
Non,
tu vois, on a vu que les jauges commençaient à baisser, et puis que c'est vrai, les difficultés difficultés réelles ont commencé à se manifester à ce moment-là. C'est-à-dire, en fait, c'est vrai qu'on n'avait plus d'argent, on était un petit peu épuisés par ce long travail de thèse.
Alors, Grishka et Igor, la communauté scientifique trouve que... Allez, pour résumer, vous sentez le soufre. Mais en fait, c'est un honneur d'être critiqué, par exemple, par l'équivalent d'un prix Nobel de mathématiques. Pourquoi, à partir du moment où vous êtes devenus respectivement docteur en mathématiques et docteur en physique théorique, la polémique a été lancée et a enflé comme si vos travaux et vos diplômes étaient faux ?
Oui, en réalité, il y a des raisons très profondes, hein, je crois.
Je crois qu'il y en a
cela.
Trois.
Il doit y avoir à peu près trois raisons. La première, c'est d'abord ces fameux 10 ans de temps X. Temps X nous a donné une silhouette qui est celle de, entre guillemets, hein, je mets tout ça vraiment en protégeant le mot, de star du petit écran. Et ce côté vedette de télévision fait qu'on était évidemment très connu au moment où on a quitté Temps X, mais tout aussi connu ou presque au moment où on revient autour des années 2000, donc dans les radars. Parce que donc 10 ans, il y a eu 10 ans complets de séparation entre nous et l'image publique. Mais l'image publique reste là. Quand on la rejoint, immédiatement, on commence évidemment à réapparaître et à réapparaître en tant que personne inséparable de Temps X, de ce destin de télévisuel. Donc à partir de là, je pense que ce mécanisme qu'on appelle en psychanalyse l'envie, tout simplement. Alors on dit plus vulgairement la jalousie. Mais je crois que ça a quand même joué et que certains des scientifiques qui nous ont vus apparaître ont été assez, on va dire, bouleversés par le fait que ces deux personnages qui ont incarné la science-fiction et donc l'impossible, le rêve,
voilà, décroche chacun
un doctorat. Moi en mathématiques et Igor en physique théorique. Il s'y ajoute autre chose. C'est pas simplement un doctorat. C'est le fait que nous avons publié dans les meilleures revues de physique théorique à communauté de lecture ou de physique mathématique ou même de mathématiques. Par exemple, Annals of Mathematics en Chine ou bien Annals of Physics aux États-Unis, qui sont des journaux imprenables.
Des bibles pour les scientifiques.
Et je pense que ça a crispé une partie de la communauté qui n'ont jamais, pour un certain nombre d'entre eux en tout cas, jamais eu accès à ces revues-là. Donc c'est là où je crois qu'on trouve une première raison. La deuxième raison, c'est que nous avons abordé une thématique très très particulière, qui est la thématique de l'avant Big Bang. Les scientifiques aujourd'hui sont tous d'accord pour dire que l'univers trouve son origine dans un phénomène explosif qu'on appelle le Big Bang, qui s'est produit il y a 13 750 millions d'années. Et nous nous sommes posé une question toute simple. Cette énergie qui se déploie, se déverse dans le vide, d'où vient-elle ? Quelle est son origine ? Pourquoi se déverse-t-elle et notamment de manière aussi réglée ? Là, lorsque nous avons posé la question au début des années 90 autour de nous, personne n'a pu nous répondre. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes dit, on va chercher la réponse nous-mêmes. Et si on doit trouver une réponse, ce ne sera pas au moment du Big Bang, ce sera avant le Big Bang. Et je crois que, sans fausse modestie, on a été les premiers à franchir cette frontière interdite du Big Bang. Et nous nous sommes déplacés pour la première fois, en tout cas nous avons déplacé la science pour la première fois, en deçà de cette frontière de Planck.
Mais je vous pose la question,
de ce mur du Big Bang.
Comment vous définissez-vous ? Vous n'êtes pas des chercheurs.
Mais si, là, nous avons évidemment fait un travail de chercheur pur, et avec des mathématiques qui sont des mathématiques complexes. Donc, il nous a fallu des années, on a hérité de ce langage mathématique grâce à notre directeur de thèse, qui était un personnage absolument brillant, remarquable.
À l'Université de Bourgogne.
Oui, à l'Université de Bourgogne, et qui faisait partie du comité Nobel, donc qui était membre consultant. Donc, vraiment, un lien avec des mathématiques abstraites, mais très puissantes, qui nous ont permis de passer ce mur du Big Bang. Donc, le fait qu'on ait été les premiers à faire ça et qu'on ait, en quelque sorte, grillé... Si on
et que vos travaux soient publiés.
Voilà, que nos travaux soient publiés et qu'on ait quelque part devancé d'autres scientifiques qui, pendant des dizaines d'années, ont cherché la même chose mais sans la trouver, je pense que ça a aussi déclenché une deuxième frustration. Puis, les idées nouvelles, vous le savez, sont toujours difficiles à absorber. Lorsque Galilée arrive avec son modèle nouveau, il surprend tout le monde et il se fait condamner.
Mais est-ce qu'il serait possible, en termes vraiment simples, de résumer l'idée, en fait, qui est la vôtre, le concept qui, après tous ces travaux mathématiques, a émergé.
Eh bien, la matière n'est pas, et c'est au fond la leçon que nous avons tirée de nos thèses, la matière n'est pas engendrée par la matière. La matière est engendrée par autre chose qu'on pourrait appeler dans les grandes traditions l'esprit. En tout cas, nous, en science, on l'appelle l'information. Et pour vous donner un exemple très simple, tous les êtres vivants, avant d'être vivant, matière, etc., avant d'être palpable, ils ont été précédé par quelque chose d'impalpable qu'on appelle le code génétique. C'est de l'information. Et bien de la même façon, l'univers tout entier, qui est palpable sous sa forme physique, il est précédé par quelque chose avant le Big Bang, qui n'est pas matériel et que nous appelons, Igor et moi, le code cosmologique. Voilà.
Il restera toujours à trouver l'avant qui est avant l'avant.
C'est-à-dire qu'il restera à déterminer quelle est l'origine des lois. Ça, c'est une vraie, les lois. C'est une vraie question. C'est une question magnifique, magique. J'invite tous ceux qui nous écoutent là maintenant à simplement se pénétrer de cette extraordinaire question parce qu'elle nous met en contact avec ce qu'il y a de plus noble, de plus beau dans la pensée, c'est-à-dire quelque chose d'irréductible. Ce qui est intéressant, c'est que la science est un territoire que l'on conquiert mais que l'on n'occupe jamais.
Nos neurones bouillonnent et c'est formidable. On se retrouve dans une poignée de secondes en compagnie d'Igor et Grishka Bogdanov.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Igor et Grishka Bogdanov sont mes invités cet après-midi dans Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Igor et Grishka, j'ai appris une chose incroyable, vous allez me dire si elle est vraie. Le film Matrix, produit donc par Hollywood et film qui est sorti en 2003, a fait un triomphe sur tous les continents. Il a rapporté plusieurs centaines de millions de dollars de bénéfices. Mais il paraît que pour écrire le scénario de Matrix, les scénaristes engagés donc par les deux frères réalisateurs qui ont fait ce film ont tout simplement repris l'histoire développée dans votre roman « La mémoire double », paru en 1984. C'est vrai, ça ?
Mais oui, c'est vrai, parce que bon, l'idée d'un monde synthétisé, entre guillemets, à l'intérieur d'un ordinateur, on l'a trouvé déjà en 1984 dans « La mémoire double ». C'est un groupe américain qui, en 1991, est venu nous demander « Écoutez, voilà, nous sommes intéressés par la mise en place d'un film long-métrage. Seriez-vous prêts à vendre les droits ?» Ce que nous avons fait, nous avons vendu une première option sur les droits pendant 6 mois, puis suivi d'une deuxième option, suivi d'une troisième option. Et à la fin, donc, le groupe nous dit, malheureusement, nous ne pourrons pas faire ce film parce qu'il est trop cher en effets spéciaux. Mais pendant ce temps-là, le scénario avait circulé dans tout Hollywood et en particulier était tombé entre les mains donc des deux frères. Et c'est vrai que nous avons reconnu, lorsque j'ai vu le film à l'écran, évidemment nous avons reconnu quantité de choses. D'abord l'idée de base, bien sûr, mais aussi quantité de petits détails qui étaient présents dans la mémoire double et qu'on a retrouvés à l'écran.
Mais ça méritait pas d'intenter un procès, ça ?
Non, parce que c'est dispendieux en temps. Il faut s'investir dans une querelle comme ça qui va durer des années. C'est un petit peu le pot de fer contre le pot de terre. Nous étions le pot de terre dans l'affaire, donc on s'est dit, c'est pas, voilà, tant mieux.
Résumer, on peut dire que les vrais scénaristes de Matrix sont Igor et Grishka Bogdanov. Et
ceux qui sont à l'origine, en tout cas, de l'idée de base, oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Il suffit de lire le livre, d'ailleurs, quand on lit le roman, La mémoire double, eh bien, on plonge dans cet univers-là.
Igor et Grishka, certains prétendent qu'aux alentours de 2050, on pourra envisager d'une façon tout à fait sérieuse la durée de vie humaine sur 150 ans. Donc ça repose bien évidemment la question de la quête d'immortalité. Alors pour un cerveau humain, avec sa mémoire chargée d'émotions, c'est fascinant ou bien c'est effrayant l'immortalité ?
C'est absolument fascinant. C'est fascinant d'abord parce que c'est une possibilité et que le cerveau humain, si on, par exemple, on essaie de savoir quelles sont les nombres de connaissances qu'il peut acquérir, c'est évidemment beaucoup plus grand que ce qu'il acquiert dans la durée de la vie humaine standard. Hein. Donc on peut imaginer que si on vit des siècles, 100 ans, 200, 300 ans, eh bien on continuera d'acquérir énormément d'informations nouvelles et ça ne sera que de l'enrichissement. C'est éblouissant pour nous et en tout cas, ce qui est certain, et là aussi c'est un message d'espoir qu'on apporte à tous, c'est que demain, dans 10, 20, 30 ans, les progrès auront été suffisants pour garantir à tous une vie beaucoup plus longue et bien meilleure. Il n'y a aucun doute là-dessus. J'ai d'ailleurs, avec Igor, forgé une sorte de slogan qui résume la situation. Hier, vieux à 80 ans, demain, jeune à 150.
Mais je reviens à l'immortalité, Grishka. Qu'est-ce qu'on fait du repos de l'âme avec l'immortalité ?
Mais l'immortalité n'est qu'une sorte de limite virtuelle. Elle ne sera jamais atteinte dans l'univers physique dans lequel nous vivons. Parce que dans l'univers dans lequel nous vivons,
c'est plutôt rassurant, je trouve.
Mais bien sûr, tout a une limite. Il n'y a pas d'extension indéfinie ou infinie pour n'importe quoi. Par exemple, la matière, même le proton a une durée de vie qui est déterminée, même si ça se compte en dizaines de milliards d'années. toute la matière, à un moment, dans notre univers, par exemple, se sera dissipée, aura disparu, se sera évaporée. C'est la même chose pour un être humain. Un être humain, il peut vivre très longtemps, mais pas éternellement. Donc, on peut s'évader très très vite du cauchemar de l'immortalité, ça n'existera jamais.
Alors, tout bon scientifique commence toujours par nier l'existence de Dieu, puis... Quand il trouve plus de réponses à ses questions, il invente Dieu, même Einstein en est arrivé là. J'ai envie de vous poser cette question avant que, hélas, on ne se quitte. Est-ce que le hasard, finalement, n'est pas plus fort que Dieu ?
Non, certainement pas.
Ils ont répondu en même temps.
Oui, et vraiment d'une manière déterminée, en disant non. Et on ne s'est pas concerté, en plus. Non, bien sûr que non, parce que le hasard, à l'échelle de nos vies, bien entendu, il joue son plein rôle. Mais en revanche, quand on s'installe à le stade global, c'est-à-dire au stade de l'univers tout entier, le hasard n'existe pas. Et encore moins, quand on remonte à l'échelle du Big Bang, c'est-à-dire au moment où tout commence, là, tout est absolument réglé. Et tout est réglé d'une manière vertigineuse. C'est-à-dire que si au 10 millième grand, il y avait un nombre changé, enfin un chiffre qui n'était pas le même, eh bien l'univers n'existerait pas. C'est vous dire à quel point le hasard n'a pas le moindre droit de citer à ce moment-là. Pas le moindre.
Merci infiniment. Les jumeaux, les garçons, Igor et Grechka, je vous embrasse.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. 13h, 14h, Isabelle Morizet.
Igor et Grechka Bogdanov nous ont quittés, mais leur mystère reste entier. Et c'est sans doute plus magique ainsi. Cette émission est à réécouter en podcast sur europe1.fr.